Bonjour, Raymond Richard au micro. Je vous tourne page. Je vous propose une biographie d'un personnage qui s'appelle Daniel Parker. Et son auteur, c'est Catherine Turpin qui vient parler de ce livre à Radio Grand Ciel. Merci Catherine d'être là et de nous présenter cette biographie. C'est le genre dont on parle assez peu, et en tout cas pour moi c'est une première, parler d'une biographie. Alors Daniel Parker, qui est-ce ce personnage ?
Alors le sous-titre, c'est un capitaliste au carrefour de deux révolutions aux États-Unis et en France. Moi, je l'ai découvert à l'occasion d'un article Wikipédia que j'ai écrit sur le château de Crécy. Il est donc l'acheteur d'un bien national en 1796. Il achète tout le marquisat de Crécy-Couvet, donc ses terres, ses moulins, le château, le parc, ainsi que le château de Conteville.
Donc, il a des relations avec le Drouet.
Exactement. Le point d'ancrage, c'est le Drouet.
Les Drouets, puis château de Conteville, les Drouets connaissent, donc peut-être en lisant cette biographie, ils retrouveront quelques allusions aux Drouets.
Tout un chapitre sur les biens nationaux.
Voilà. Alors, qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à ce personnage ?
Eh bien, après avoir découvert donc qu'il avait acheté tant de biens en Eure-et-Loire, ma curiosité a été piquée et j'ai voulu en savoir plus sur lui, sur son existence, avant et après. Donc avant, bien sûr, aux États-Unis, puisque c'est un Américain du Massachusetts, et puis ensuite, après l'achat de Crécy, donc savoir ce qu'il avait fait de son existence.
Oui, parce que c'est intéressant quand même, un personnage américain qui achète des biens nationaux dans la région drouaise, en tout cas le château de Crécy et ses dépendances. Et alors, je vais poursuivre dans ma quête. Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser aux archives, et notamment du château de Crécy ?
Alors, pendant quelques années, j'ai écrit de nombreux articles pour Wikipédia sur les châteaux d'Eure-et-Loire et sur leurs propriétaires quand c'était des personnalités remarquables. Contrairement à ce que exige Wikipédia, je ne me reposais pas sur des articles déjà écrits, d'ailleurs ils m'en ont fait le reproche, mais je me reposais sur les archives, sur les sources des archives. Et j'ai vraiment développé une passion des recherches, ce travail d'investigation dans salles d'archives, toujours dans cet univers silencieux où l'on est en train d'exhumer des personnages un petit peu méconnus.
D'exhumer des personnages méconnus, puis aussi exhumer des pages d'histoire méconnues, parce que souvent, entre les archives et le livre d'histoire, il y a quand même, dans certains cas, un grand pas, et même dans certains cas, une simplification qui me paraît quelquefois abusive.
Oui, là on est effectivement dans le détail. On détaille l'existence d'un individu grâce aux minutes notariales. Ce sont des actes ingrats à lire, mais qui apprennent beaucoup de choses sur la vie de ce personnage. Cette vie est ancrée dans l'histoire et elle nous fait évidemment nous pencher sur tout ce qui s'est passé à ce moment-là.
Donc beaucoup d'archives, puis à un moment donné, vous avez envie d'en savoir plus sur le personnage.
Exactement, c'est un puzzle. On a envie de retrouver toutes les pièces de ce puzzle afin de ensuite pouvoir écrire sa vie.
Alors effectivement, il vit au XVIIIe et au XIXe siècle et on survole les deux révolutions, la Révolution américaine et la Révolution française.
Exactement, donc il est né dans le Massachusetts, la guerre d'indépendance a éclaté. Ce n'est pas du tout un militaire dans l'âme, mais c'est un négociant dans l'âme. Donc il va se faire fournisseur aux armées. Et dans ce cadre, il va faire la connaissance du général Washington. À la fin de la guerre d'indépendance, il se lance dans le commerce. Il arme des navires en partance pour l'Europe et pour la Chine. Mais ses créanciers sont à sa poursuite et la seule solution qu'il voit, c'est de rejoindre l'Europe, l'Angleterre en premier, puisque c'est le seul pays dont il connaît la langue. Mais il aura quand même un pied à Londres et à Paris.
Oui, alors donc, des États-Unis, négociant au moment de la guerre d'indépendance, dans la quatrième de couverture, on voit qu'il croise Washington, en effet, Jefferson, Lafayette. Mm-hmm. Donc, c'est par Lafayette qu'il est intéressé du côté français.
Lafayette, il le connaîtra plus tard. Aux États-Unis, il est en relation avec Washington, mais ce n'est que plus tard en France, donc, qu'il connaîtra Lafayette, bien plus tard, au moment où, sous le Premier Empire, Lafayette est revenu, habite à la Grange Blénod, et donc quasiment son voisin, puisque Daniel Parker a acheté un château prestigieux dans l'Essonne, le château de Draveil. Et il prête de l'argent à Lafayette, qui a perdu toute sa fortune. Et Lafayette devient un de ses invités réguliers, puisque tous les lundis, c'est du château de Draveil qu'il écrit son courrier.
Donc, dans cette biographie de Daniel Parker, on va aussi croiser des personnages de l'histoire que l'on connaît de la grande histoire, si j'ose
Exactement.
Dire.
Exactement.
Et lui, il intervient quand même... en sous-main, et finalement c'est un personnage important, puisque acheteur de tant de
biens nationaux, c'est ce qui va constituer sa fortune. Il va pouvoir ensuite s'établir à Paris, acheter un hôtel particulier qui est l'hôtel de Silène, qui est englobé maintenant dans le collège Stanislas, donc quartier du Montparnasse, et le château de Draveil. Donc c'est un personnage qui devient important sous Napoléon.
Et un financier, donc.
Un financier qui est assez proche de Talleyrand. Ils partagent tous les deux le même goût et du mystère et des affaires. Et donc Daniel Parker va être amené à jouer le rôle d'un ambassadeur officieux des États-Unis. Et dans ce cadre-là, il va participer au financement de l'achat de la Louisiane, puisqu'il est toujours en rapport avec les grosses maisons de banque, qui sont maisons de banque anglaises, Baring, et maisons de banque d'Amsterdam, Hope.
Vous avez suivi aussi ces transactions ?
Bien sûr.
Comment vous avez fait pour aller aussi trouver ces archives ?
Alors, les archives Baring existent en Angleterre.
D'accord, donc là,
archives anglaises, archives américaines pour d'autres sujets et archives françaises, nationales et départementales, puisqu'il a effectué des achats en Eure-et-Loire. Il a vécu à Draveil, donc ça nécessitait d'aller aux archives de l'Essonne. Et il est mort à Versailles, ce qui m'a nécessité aussi d'aller aux archives des Yvelines.
Donc vous fréquentiez les archives. Alors, entre les archives et écrire une biographie, il y a quand même là un pas à franchir. Mais le personnage vous a intéressé parce que vous le retrouviez partout.
Exactement. Et puis c'est un personnage... qui a tellement de facettes qu'on ne peut que s'intéresser à lui. Et au fur et à mesure que je commençais à avoir un matériel assez important, je prenais des notes, je commençais à écrire, au risque ensuite de tout reprendre, mais j'avais besoin à chaque fois quand même de tout noter.
De consigner les choses par écrit pour pouvoir les...
Voilà, et puis c'est quand même un personnage assez romanesque.
Oui, donc il y a aussi l'aspect romanesque dans la biographie.
Bien sûr. Il a été marié très tôt à sa cousine aux États-Unis. Elle a attendu un peu pour venir le rejoindre à Londres. Elle a attendu certainement qu'il s'établisse et elle l'a rejoint. C'était assez difficile à cette époque. Les conditions, effectivement, de voyage sur ces navires entre New York et puis l'Angleterre.
C'était pas forcément très confortable.
Pas très confortable, avec des odeurs nauséabondes, avec les vagues, les tempêtes. Enfin, elle a certainement apprécié beaucoup plus son séjour à Londres que son séjour à Paris, qui s'est déroulé en pleine révolution. Et si j'ai bien compris, elle l'a quitté et elle est repartie vivre aux États-Unis. Ensuite, si je parle d'un personnage romanesque, c'est que il a vécu avec la femme d'un ami américain, avec le consentement du mari, et il a fondé une deuxième famille, c'est donc les trois enfants de ce couple, et il leur a fait partager une vie très fastueuse au château de Draveil.
Donc un personnage dont on va suivre l'histoire, l'épopée.
Exactement.
Mais en même temps qui croise et qui montre aussi les dessous financiers des affaires politiques.
Tout à fait.
Ça renvoie aujourd'hui dans votre découverte, ou pas du tout, ou trop, de trop loin?
Oui, ça, c'est, comme me disent certains lecteurs, un petit peu le tapis du XVIIIe siècle. Alors, d'abord, il a été un spéculateur redoutable, c'est ce qu'il l'a fait connaître en Grande-Bretagne. Il a spéculé sur la dette américaine, il a fait racheter de la dette aux banquiers anglais et hollandais. Et puis, bien sûr, en France, il a continué à être toujours dans le monde des affaires.
Alors, puisqu'on est Drouet, parlons un peu du château de Conteville.
Alors, le château de Conteville, il l'a acheté en même temps que le château de Crécy. Il était en mauvais état quand il l'a acheté, mais à chaque fois, il fait les travaux nécessaires pour rendre les lieux habitables. Il y habitait un tout petit peu quand il venait régler ses affaires de baux, de fermage. On le sait parce que dans les actes notariés, il est question de la chambre de Monsieur Parker. Ensuite, il l'a loué à un couple de nobles et il y a fait aussi paître ses moutons mérinos sous l'Empire. C'était la grande mode à l'époque.
Oui, c'est vrai que depuis Marie-Antoinette et la bergerie, ça, les moutons sont restés.
Tout le monde en avait, aussi bien le général de Lafayette que lui, que l'ancienne madame de Beauharnais, bien sûr.
C'est un personnage sympathique. Vous l'aimiez, ce Daniel Parker, finalement, après avoir écrit toute son histoire ?
Quand on écrit sur quelqu'un, forcément, il y a un lien qui se crée.
Oui.
Même si c'est un personnage parfois peu scrupuleux dans ses affaires, il est quand même relativement sympathique et tout le monde reconnaît qu'il est très sociable. Il n'est jamais seul, il sait s'entourer de tout un réseau.
Donc il fonctionne en réseau et vous nous permettez, par la lecture de ce livre, de découvrir ce réseau, aussi bien celui qui fonctionne au moment de ses achats que celui
Exactement.
Qui fonctionne politiquement lorsqu'il s'agit de vendre la Floride.
Oui. Alors, pour revenir sur le Drouet, il s'est entouré d'agents de change, donc Cardo-Villers qui a ensuite acheté le château de la Ferté-Vidame et qui l'a fait également détruire, et puis le futur propriétaire donc de l'auditoire à Crécy. Pour ce qui est de la Louisiane et même des Florides, il a eu même à un moment donné l'envie que les États-Unis récupèrent donc les Florides, ça ne s'est pas passé, mais il a réussi au niveau de la Louisiane à faire que cet achat puisse se faire. C'était un achat très important pour les États-Unis puisque il multipliait la surface des États-Unis. Et le problème, c'était le côté financier, comment effectivement payer à Napoléon, qui était très intéressé par tous ses revenus pour ses futures campagnes. Il était l'homme providentiel grâce à ses contacts avec les banquiers.
Le temps s'écoule, Catherine. Eh bien, on va suggérer aux auditeurs de lire cette biographie de Daniel Parker qui nous promène des États-Unis à la Floride, en passant par la région Drouet, donc des choses qui intéresseront sûrement les Auréliens. Je dis bonne lecture, et aux auditeurs, je dis bonne semaine à tous. Au revoir.
Au revoir.